m'as choisi, je t'ai reçu.
Quand Philippe nous a dit qu'il allait parler de l'inquiétude, je me suis dit, ça fait 30 ans que le Seigneur me travaille à ce sujet, puis j'ai encore des progrès à faire. Alors, le texte qu'on va lire, enfin que je vais lire, il se situe dans le contexte de deux frères qui se chamaillent au sujet d'un héritage. Et Jésus leur dit cette parabole. Il y avait un gars qui avait amassé beaucoup de biens, qui dit « j'ai pas assez de place, il faut que je fasse encore des entrepôts ». Et quand il l'a fait, il dit « ah ben ça y est, maintenant c'est bon, ma retraite est assurée, je vais pouvoir manger, voyager, me réjouir, tout sera bien ». Et Jésus lui dit « insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée ». Et la conclusion de l'histoire, c'est qu'on n'est riche qu'en Dieu. La vie, c'est dans Luc 12, la vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc, vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus.
La lecture suivante nous parle ou nous interpelle et nous dit de remettre ses soucis au Christ. Dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Et là, c'est une autre sorte de souci. Ce sont les soucis de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 11, qui dit « J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. En effet, qui est faible sans que je sois faible? Qui tombe sans que cela me brûle? »
Et finalement, on va lire un passage qui ne devrait pas nous concerner, puisque Elle parle de l'angoisse des nations. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 25 à 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. J'aimerais prier d'abord pour Philippe, parce que il a un petit problème, il vous dira. Seigneur, nous venons devant toi et nous voulons te remettre Philippe. Nous voulons te demander de le conduire par ton Saint-Esprit et de lui donner de la voix pour nous transmettre ce que tu as à nous dire. Je te le prie au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alexandre, merci de ta prière qui me va droit au cœur. J'ai chanté avec une particulière ferveur le chant qui dit « Tant que je respire, je t'adorerai ». Vous avez entendu que ma voix ne marche plus ce matin. Alors, merci à mes amis de la Sono de contribuer à ce problème. Nous avons ce matin allumé une deuxième petite bougie dans notre table, bougie de l'Avent, petite étincelle de joie, année après année, qui nous annonce la fête de Noël, et bien entendu, la fête de Noël que nous attendons n'est pas à confondre avec la fête de Noël que le monde attend. Le monde attend une période de cadeaux et de lumière, certes, mais surtout d'achat, de fêtes, de repas, de cadeaux peut-être exceptionnels, voire extravagants. Alors, c'est pas mauvais en soi, mais c'est normal que le monde attende des réjouissances de cette nature, parce qu'il est adepte de la fête des Lumières, ancienne fête païenne du solstice d'hiver, que le monde chrétien a associé à la naissance de Jésus par un souci de calendrier, mais en fait, nous attendons le rappel de la naissance de Jésus, notre lumière spirituelle, l'étoile brillante du matin. Le sujet de ce matin, c'est la foi et l'inquiétude. A priori, devrait s'exclure. Or, c'est pas toujours si simple. Et je travaille au centre-ville depuis de nombreuses années et je fais souvent un petit tour pour croquer mon sandwich sur les ponts, là, les bergues, les magasins, le tour des ponts. Et d'année en année, j'ai le sentiment que cette fête, ce temps des fêtes, cette période des fêtes, n'est plus tellement une période de douceur, n'est plus tellement une période de paix, de repos favorable à la méditation, à l'adoration. On a le sentiment que ce n'est plus un temps sabbatique, mais au contraire, malgré les belles illuminations que le service des fêtes de la ville de Genève nous met en place, il faut voir le pont des Bergues, il est magnifique, tout éclairé, c'est très beau, mais il faut regarder aussi les visages des gens. Et si vous regardez les visages des gens, vous voyez que la période des fêtes est une période de crispation, une période agitée, peut-être la plus stressante de l'année, et nombreux sont les visages absolument stressés, crispés. Et en y réfléchissant, j'ai eu le sentiment que ce qui hante le plus les gens, c'est le risque de décevoir. Décevoir parce que les cadeaux pourraient ne pas être conformes aux souhaits. Je pense toujours, j'ai beaucoup de compassion pour les pauvres parents qui, heureusement les enfants sont partis, Mais les pauvres parents qui sont dans ce système des marques, vous savez, il faut acheter des choses qui ont une marque. Si ce n'est pas, je ne vais pas en citer, mais si ce n'est pas cette marque, ils n'en veulent pas. Et il y a des enfants qui ne veulent pas les cadeaux que les parents donnent parce que l'objet qu'ils voulaient, ce n'est pas la bonne marque. C'est vraiment, ça doit être difficile. Mais c'est une tyrannie, mais les enfants sont tyrannisés eux-mêmes à l'école parce qu'ils n'ont pas la marque qui les inclut dans le groupe, ils en sont rejetés. Donc il y a une espèce de double tyrannie qui est vraiment épouvantable et totalement à l'opposé de l'esprit de Noël. Donc décevoir parce que les cadeaux pourraient ne pas être conformes aux désirs ou aux attentes, décevoir parce que les repas, peut-être pour les ménagères ou les hommes aussi qui font des repas, pourraient pas être tout à fait parfaitement réussis, décevoir parce qu'on ne pourra peut-être pas recevoir les gens, faute de temps ou de moyens matériels. Merci beaucoup. Je l'ai oublié, j'ai senti. Alors, avant d'entrer, comme tout le monde, dans cette période des fêtes, je vous propose de nous pencher sur l'origine et la nature de nos soucis, mais également sur l'origine et la nature de notre sérénité intérieure. La Bible mentionne clairement ces deux choses, ces deux aspects, et elle les présente comme un mal et son antidote. Et certains signes des temps nous oriente aussi sur la nature de ce problème. Dans le registre des soucis, des craintes, des inquiétudes, il n'y a pas besoin de faire une grande introspection à l'intérieur de nous pour constater qu'il existe une espèce de gradation dans les soucis. Des paliers de nos états émotionnels, plus ou moins anxieux. C'est une expérience qui nous le dit. Il n'y a pas besoin de lire beaucoup de livres. D'une petite préoccupation banale, comme nous en éprouvons tous parfois, jusqu'à un état d'angoisse intense qui bousille complètement notre disponibilité et notre vie relationnelle. Nos soucis, on peut les définir comme des états d'anxiété qui sont induits par une raison, une cause qui surgit, une situation que nous traversons, un entretien qui s'est mal passé, quelque chose que nous voyons ou que nous entendons. Et donc, le souci est une certaine dose d'anxiété qui surgit en nous et qui va y rester pendant un certain temps. Et l'intensité de nos soucis est ce qui crée le plus de problèmes. Imaginons le fait de nous planter dans un bouchon sur la route, comme ça va se passer certainement bientôt, avec la conséquence d'arriver en retard à un rendez-vous. Alors moi, ça m'est souvent arrivé, ce genre de choses. Il y a eu une époque où je travaillais à Lausanne, et j'étais toujours dans ce souci, mais est-ce que la route sera assez libre pour arriver au rendez-vous ? Alors, ce n'est pas un gros souci, on va le qualifier de stress. Il est momentané, il va disparaître aussitôt que nous aurons pu rejoindre notre interlocuteur ou notre rendez-vous par téléphone ou que nous serons arrivés en sa présence, on s'excuse rapidement. Je dirais que c'est gérable. Et pour faire une petite boutade, je dirais qu'on ne va pas encore en rajouter en nous arrêtant sur la prochaine aire d'autoroute pour prier pendant une demi-heure pour ce problème. C'est un petit souci. Mais si le même rendez-vous, on est dans un bouchon, on a un rendez-vous, mais qu'à ce rendez-vous, on est attendu par 500 personnes parce qu'on donne une conférence, ça va être autre chose comme souci. On va décevoir 500 personnes, on va être pris pour un mal appris qui ne prend pas de précautions et nous allons passer d'un état de souci beaucoup plus grand, beaucoup plus envahissant. Et donc, dans notre culture, il y a trois catégories, trois domaines de soucis qui sont prévalents, qui sont fréquents. Alors, les soucis par rapport à l'argent, les soucis par rapport à la santé, la nôtre ou celle des tiers, et les soucis par rapport à notre sécurité, au travail, par exemple. Et donc, l'intensité est liée à la nature des problèmes que nous rencontrons, mais aussi à nos tempéraments individuels. Devant une difficulté financière, on se fait ramasser son porte-monnaie avec toutes ses cartes et tout son argent juste avant de faire les courses. C'est énervant, on va se dire, mais comment est-ce qu'on va faire? On aura un souci. Certains vont se dire, peut-être qu'ils ont assez d'argent pour le dire, mais bon, plein d'argent n'est pas mortel. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres qui vont faire quasi une dépression jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur bien. Devant la santé, certains sont en souci et consultent fréquemment le médecin parce qu'ils ont des soucis quant à leur fonctionnement biologique. Et il y en a d'autres, il faut attendre qu'ils soient presque mourants pour aller chez le médecin. Les paysans, je crois que je l'ai déjà dit une fois, c'est les champions du monde. Ils sont extrêmement durs à la souffrance, parce que leur slogan, c'est « ça va pas, mais ça va passer, et je peux quand même faire ceci ou cela ». Et ils vont travailler toute la journée avec une pneumonie et une température de 40 degrés. Parce que pour eux, ça va passer. Moi, je ne ferai pas ça, même j'ai déjà une crève, c'est déjà beaucoup. Mais il y a des gens qui sont très durs à la souffrance. Devant le travail, j'étais de nombreuses années aux premières loges pour me rendre compte des soucis qu'il y a avec le travail. Des personnes tombent malades de soucis, prennent des médicaments, tellement qu'elles sont en souci par rapport au travail, tellement qu'elles sont en souci par rapport à la précarisation de leurs conditions de travail. Elles prennent tous les jours des médicaments pour pouvoir tenir le coup, pour pouvoir travailler, prendre des médicaments. Moi, j'en connais plein, j'en ai vu plein. Et d'autres, et j'en ai connu aussi, ils ont commencé un travail. Bon, on peut se dire qu'ils ont une chance extraordinaire. Enfin, moi, j'en ai engagé beaucoup. Et puis, 3 mois après, ils donnent leur congé, eux-mêmes. Puis, je m'étonne, je dis, il y a 20 000 chômeurs à Genève, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais le travail ne me plaît pas. Je dis, oui, mais c'est dur à trouver le travail. Oh non, c'est pas dur, je vais en chercher un autre. Vous voyez, ça, aucun souci. J'ai connu des gens, et j'avais fait une petite enquête pour constater que dans certains pays, notamment d'Amérique latine, où il peut y avoir jusqu'à 30 ou 40% de chômage dans certaines villes, eh bien, les gens sont paradoxalement pas du tout anxieux par rapport au travail ou à la perte de l'emploi. Pour eux, c'est tellement normal, mais tellement fréquent de ne pas avoir de travail que, au fond, un jour du travail, bon, non, on travaille, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, on se débrouille. Ils ne voient pas de raison de s'inquiéter. Donc, nos soucis sont aussi culturels, hein. Donc, je rappelle juste que l'intensité des phénomènes, notre tempérament et notre culture font nos soucis, plus ou moins envahissants. Il y a 2 sortes de malaise émotionnel qui dépassent complètement cette notion de soucis, d'anxiété, de préoccupation, vraiment, qui les dépassent beaucoup. C'est la peur et l'angoisse. Ces 2 états provoquent des réactions en nous opposées. La peur, c'est quelque chose de très bien, de très utile. C'est d'être confronté à quelque chose d'effrayant, de menaçant, quelque chose qui nous fait très très peur, qui représente une menace immédiate, mais que l'on voit. Et la peur, c'est vraiment une ressource. Alors, si je suis dans une forêt au Canada, il y a des grandes forêts, vraiment, et que je me trouve tout à coup devant un ours grizzly, c'est tout à fait normal. Je vais avoir une peur de ma vie parce que je sais que ces ours sont extrêmement méchants, agressifs. Ils vous foncent dessus. J'ai été logé chez un monsieur qui travaillait dans les régions d'Alaska, dans ces grandes forêts. Il posait des tuyaux, je crois, des grands tuyaux dans les forêts pour acheminer du pétrole, des choses comme ça. Toute la journée, la carabine sur le dos avec les détentes armées, à cause des ours. Toute la journée, la carabine. Si vous n'aviez pas la carabine prête, vous risquez votre vie. Donc, c'est vraiment des sujets comme ça qui peuvent déclencher une grande peur. Et dans les situations de peur, notre cœur se met à battre beaucoup plus vite. On a une force beaucoup plus grande. Certainement qu'Alexandre pourrait nous expliquer les mécanismes. Et on a des ressources qu'on n'a pas du tout à l'état normal. Et donc, si nous n'avions pas ce phénomène de ressources physiques qui sont déclenchées par la peur, on n'aurait aucune réaction et on serait en danger. Alors ça, c'est bénéfique. Avoir peur de quelque chose, c'est bénéfique. Par contre, l'angoisse, c'est un phénomène tout à fait particulier et malheureusement très fréquent. C'est un objet de terreur, d'effroi. C'est une terreur envahissante, mais on n'arriverait pas à dire de quoi. Une terreur sans objet précis. Et on nomme aussi cela l'angoisse existentielle, parce que c'est un sentiment de mort imminente. Ce sentiment pourrait s'exprimer par ce cri « Je vais mourir dans quelques instants, je ne peux pas me soustraire à cela, et je ne sais pas quand ça va arriver. » Donc vous voyez une espèce de perte complète des possibilités de réagir, parce qu'on ne sait pas de quoi on a peur. Alors ça, c'est vraiment horrible. C'était une torture diabolique que les gardiens des camps de concentration utilisaient. Tous les matins, à l'appel, ils fusillaient 2 ou 3 personnes, aléatoirement, et tous ceux qui restaient, ils se demandaient quand viendrait leur tour. Parce qu'il n'y a aucun critère pour désigner les gens qui allaient être fusillés. Donc, tous les matins, ils se demandaient si c'était leur tour. Et ça générait des troubles terribles dans ces personnes. Alors, nous avons lu ces textes merveilleux, nous exhortant à ne pas nous faire de soucis. Merveilleux texte. Pour le lendemain, pour notre vie matérielle, nous décharger sur Christ de tous nos soucis parce qu'il prend soin de nous. Et on a envie de s'accrocher à ces deux textes. C'est-à-dire, mais on ne doit pas se soucier du pain, des habits, se décharger, si on a un souci quand même, sur le Christ. Vraiment, c'est fantastique. Mais moi, j'aimerais bien faire une petite enquête pour savoir qui parmi nous, malgré ces textes, n'éprouve pas des soucis. Les soucis ne vont pas vous demander s'ils peuvent vous arriver. Alors, nous avons tous des craintes, des angoisses peut-être, cachées, secrètes. Et la question, c'est comment allons-nous les gérer? Comment allons-nous gérer d'abord cette différence entre l'appel à la sérénité permanente et les soucis que nous vivons? Si nous éprouvons des soucis, des angoisses même, est-ce que nous manquons de foi? Est-ce que nous sommes des gens craintifs? Est-ce que nous avons un problème? Pourquoi la Bible nous dit-elle 366 fois, paraît-il, c'est Anne Paulet qui me l'a rappelé, pour inclure les années bissextiles, 366 fois, ne craignez pas, ne crains pas. Alors, si la Bible en parle beaucoup, c'est que le problème est important. L'anxiété, les soucis, les craintes, l'angoisse peuvent venir dans nos vies, même chrétiennes. Et même Jésus, je me suis posé la question, mais est-ce que Jésus a connu ça? Mais la réponse est oui, bien sûr. À Gethsémané, la Bible dit, Jésus commença à éprouver de l'angoisse. Et dit, mon âme est triste à mourir. Même Jésus. Par ailleurs, que penser de cette parole de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, quand même une colonne du christianisme, qui dit « Mon fardeau quotidien est le souci de toutes les églises », texte qu'Anne nous a lu. Que penser enfin de l'avertissement de Jésus disant clairement que dans les temps qui précèdent sa venue, il y aura une grande angoisse parmi les nations? La réalité, c'est que le cortège des soucis, des craintes, des angoisses, c'est le lot de toute l'humanité depuis toujours. C'est seulement dans le royaume qu'il n'y aura plus de soucis. Pour le moment, on est sur terre et on a des soucis plus ou moins graves. Mais si nous y réfléchissons bien, ce n'est pas l'existence des soucis qui est un problème, c'est notre manière de les gérer. Nous avons partiellement prise sur nos soucis. Quand je dis partiellement prise, c'est sur l'apparition de nos soucis. On peut les bloquer à l'avance. Par exemple, on peut faire preuve de prudence. La prudence peut nous épargner énormément de soucis. On peut faire preuve de prévoyance, c'est-à-dire on peut anticiper la probabilité que quelque chose se passe et nous préparer en conséquence. D'autres fois, les soucis nous tombent dessus, on n'a rien demandé, on n'a rien préparé et ils arrivent. Mais il y a quand même cette question qui nous reste, mais est-ce qu'il y a des soucis utiles qu'il faut écouter et garder et cultiver? Et puis d'un autre côté, des soucis inutiles dont il faut se débarrasser précisément. Eh bien, le texte que nous avons lu aussi dans Luc, « Ne vous faites pas de soucis pour la nourriture et tout ça », c'était le texte de notre mariage avec mon épouse. J'ai pris ce texte, « Ne vous faites pas de soucis ». Il est vrai, on a manqué de rien, on a eu toujours ce qu'il fallait. Mais si j'isole le verset qui dit « Toutes ces choses matérielles, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père sait que vous en avez besoin. » Alors, je peux très bien isoler ce verset comme ferait une secte, et je dirais « Mais j'ai pas besoin de soucis, de travailler, de faire des études, puisque Dieu sait ce que j'ai besoin, je ne vais même pas m'en préoccuper. » Et une telle insouciance, est-ce qu'elle relève de la foi? Bien sûr que non, puisque toute la Bible, par ailleurs, dit que la Bible valorise le travail comme une contribution à l'effort collectif et au fait de subvenir à ses besoins. L'apôtre Paul est extrêmement clair là-dessus, il est même très sévère, ce qui n'exclut pas une aide sociale, mais enfin je veux dire un acte de foi et une insouciance qui est une inconséquence, il y a une bonne marge entre les deux. Comment distinguer la confiance et l'insouciance complètement irresponsable? Alors, je dirais devant une situation qui génère en nous du souci, posons-nous la première question, que puis-je faire, pour atténuer ce souci, cette crainte? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à ma portée? Et s'il y a quelque chose qui est à ma portée, je dois le faire. Mais ça implique que tout ce qui n'est pas à ma portée, je dois le laisser faire à Dieu. Parce que si je confonds les deux plans, je veux tout maîtriser et je veux prendre la part qui appartient à Dieu. Ce qui pose des problèmes. Donc, c'est souvent là que le bât blesse, on veut tout maîtriser, y compris ce qui appartient à Dieu, ou pire, on prend rien du tout en disant « Dieu pourvoira ». Mais il y a un moyen terme entre ces deux extrêmes. L'homme qualifié de riche propriétaire n'aurait pas dû avoir des soucis matériels. Il était qualifié de riche propriétaire, il avait des biens, il ne savait plus où les mettre. Il n'aurait pas dû avoir une vie ravagée par les soucis, en tout cas pas matériels. Eh bien, il était plein de soucis, d'infrastructures, il faut construire des nouveaux greniers, il faut que je serre ma récolte, j'ai pas de place, faut que je gagne plus, faut que je m'arrange. Mon infrastructure, bien, le bonheur, ça sera pour plus tard. Alors, il faut amasser, puis le bonheur, c'est après. Mais après quoi? Il est insensé parce qu'il ne sait pas, comme nous ne savons pas, ce que sera demain, ce que sera le lendemain. Donc il entasse peut-être pour les autres, ou pire, pour l'État. Et la conclusion est très intéressante. Qui de vous, par son souci, peut prolonger la durée de sa vie? Donc, encore un dernier mot sur le fait que l'apôtre Paul avait des soucis. L'apôtre Paul dit « Je porte mon fardeau, les soucis de toutes les églises. » Alors, il portait un souci qui n'était pas du tout la crainte d'un événement qui le déstabilisait, mais il portait le concernement, le souci du concernement de la vie de l'Église, sa responsabilité dans l'Église étant engagée. Se soucier, c'est se mettre un souci volontaire de quelque chose ou de quelqu'un, se sentir concerné. J'en ai fait l'expérience très récemment. Ma mère est subitement tombée très malade, enfin, fortement amoindrie, alors que jusqu'à 90 ans, à peu près, elle connaissait pas la médecine. Et tout à coup, à l'hôpital, ça change complètement le mode de relation. Personne qui est complètement indépendante, qui devient complètement dépendante. Et donc, mon souci n'est pas qu'elle perde la vie ou qu'elle finisse sa vie, parce qu'à 90 ans, statistiquement, on devrait s'y attendre. Mais c'est de maintenir une relation avec cette personne dans un contexte complètement différent de celui que je connais. Et donc, les soucis positifs, c'est les soucis qu'il faut se créer à soi-même, se soucier d'eux, parce que si on se soucie d'eux, on peut faire beaucoup de bien. Et nous avons certainement, dans le texte de porter les fardeaux les uns des autres, l'idée de porter les soucis des uns des autres, de les partager, de les vivre et de les gérer ensemble. Ce qui n'est pas à ma portée, je dois le remettre à Dieu et je lâche prise, j'apporte ces choses à Dieu pour qu'il fasse la part qui m'échappe, qui échappe à mon pouvoir. Même si ça concerne la capacité de croire, pensez à cet homme qui a dit à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais je ne suis pas sûr de croire. Et se décharger sur le Christ de tous nos soucis, c'est adopter une attitude générale envers les soucis, envers l'ensemble de nos soucis. Que ces derniers soient accessibles à notre pouvoir, partiellement ou pas du tout, rien ne doit nous empêcher d'en parler au Seigneur, même si nous pouvons prendre une partie de la solution sur notre propre force ou notre capacité. Je me décharge de mes soucis sur le Christ comme je me décharge du souci de la conduite d'un avion quand je suis dans un avion. Quand je vais à Montréal ou je suis allé récemment en Colombie-Britannique, 9 heures de vol, ultra pénible pour moi, je déteste ça, mais heureusement, je n'avais pas encore le souci que cet avion marche. Et j'avais une foi complète dans ce pilote, enfin ces pilotes, cet équipage, je ne les ai pas vus. Et tous leurs instruments, quand on vole à 10 000 mètres, puis que l'écran nous montre qu'il fait moins 60 degrés, et qu'on vole à 1020 km/h, et que voilà, on peut se dire, mais quelle merveilleuse expérience de se décharger du souci d'être conduit à bon port. Moi, j'ai aucune idée où on allait, on était dans les nuages ou dans la nuit, mais on sait que il y a des gens qui sont qualifiés et qui vont faire le nécessaire. Même pour une voiture, il y avait la fameuse chanson de Pierre Van Vorden, « Mon auto, Jésus la guide ». C'était joli, c'était drôle. Mais quelque part, si je suis le passager de la voiture, mais je suis déchargé du souci de la conduite de la voiture si je suis passager. Même si je donne un bon conseil au conducteur, je dis « Écoute, là, il vaudrait mieux prendre là ou là. Fais gaffe, là, il y aura un sens interdit parce que je connais l'endroit. » Mais je suis déchargé de la manœuvre. Et ça, c'est vraiment une image dont il faut nous souvenir. Une anecdote en conclusion, fort instructive, est celle où Jésus a accompagné ses disciples dans la barque. Il devait traverser le lac. Jésus était fatigué comme homme. Il était fatigué. Il s'est endormi sur le coussin. Il y avait un coussin. Bon, il s'est endormi. La tempête est arrivée et il dormait toujours. Les disciples ont été très fâchés contre lui. Pourquoi je dis très fâchés? Eh bien, je vais vous donner quatre traductions de l'interpellation qu'ils lui font. Et vous allez voir que quand on parle comme ça, on est très fâché. Les disciples lui disent, Louis II, traduction Louis II, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Semeur, Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ? Tob, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ? Second révisé, Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ? Donc vous voyez, ils disent, mais tu fais quoi ? Et Jésus fait ce qu'il peut faire, ce qui est à la portée, ce qui est à sa portée. Comme il est divin, il apaise la tempête. Ça, on sait, on n'aurait pas pu le faire, mais il leur dit, eh, où est votre foi ? Alors moi, c'est dans cette dernière interpellation que j'aimerais conclure. Où est votre foi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qu'il a voulu leur dire avec ce « Où est votre foi ?» Alors, moi, je vois deux choses, mais je ne dis pas que j'ai la science infuse. Premièrement, il aurait pu vouloir leur dire, c'est un petit reproche, mais vous ne croyez pas que je suis divin ? Hein ? Leur incrédulité par rapport à sa divinité. C'est une première thèse. Puis une deuxième, ça pourrait être un appel à une foi qui fait place à l'Esprit Saint, qui veut agir au travers d'eux et au travers de nous par extension, comme si Jésus disait « Pourquoi votre foi ne vous a-t-elle pas permis de faire ce que je viens de faire ?» Donc, on arrive à la conclusion que, dans le domaine des soucis, le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité, mais c'est la crainte. Que le Seigneur nous soit en aide pour avoir la foi en Dieu comme lui avait foi en Dieu. Et nos soucis vont certainement en pâlir. Amen.
Alors nous voulons nous remettre dans la prière aussi, dans les mains du Seigneur, et lui demander de nous décharger de nos soucis. Seigneur, merci parce que c'est un privilège vraiment. C'est un privilège de te connaître. C'est un privilège aussi de savoir que tu es tout-puissant, que tu es aimant, que tu es un Dieu d'amour qui apaise nos âmes, nos préoccupations, que c'est à toi que nous pouvons adresser tous nos soucis, les déposer au pied de ta croix. Merci Seigneur pour ce privilège. Amen.